Voilà, je vous invite à prier. Alors Seigneur, nous voulons te confier les enfants et les jeunes qui vont se réunir juste là à côté. Nous te remettons particulièrement les moniteurs et monitrices qui vont prendre en charge. Et nous te demandons de les fortifier, de les renouveler et que la grâce soit répandue sur eux tous. Amen. Et puis aujourd'hui, ben c'est Yann qui va nous apporter le message de la part du Seigneur. Alors si tu veux bien t'approcher. Eh bien, Seigneur, nous reconnaissons en Yann ton porte-parole pour ce matin et nous te demandons vraiment de loindre particulièrement des paroles que tu as mises dans son cœur pour nous. Et puis, nous te prions pour nous, pour que tu modèles nos cœurs pour qu'ils soient vraiment réceptifs à ce que tu as à nous dire. Et puis que cette parole ne reste pas simplement une parole comme ça dans nos cœurs, mais que cela y porte du fruit et puis que ça se voit dans nos vies, dans cette semaine, et puis dans les semaines suivantes. Amen.
Bonjour à chacun. Bienvenue à chacun et à chacune. Voilà. C'est vrai que ces jours, on se rappelle de quelque chose d'assez particulier, enfin surtout aujourd'hui, n'est-ce pas ? Une chose qui a l'air de rien, extrêmement puissante, extrêmement extravagante, une chose totalement incroyable, une chose complètement folle, mais une chose tellement merveilleuse. Et puis c'est tellement merveilleux que ça impacte, c'est censé impacter, toucher l'humanité entière, pas juste nous ici. Et ça a même un impact jusque dans l'au-delà, dans l'univers entier. C'est vrai que si on réfléchit à ces choses et à ces mots, avec notre compréhension, on est vraiment face à quelque chose d'incompréhensible. Et aujourd'hui, on est dans cette joie de Pâques, c'est vrai. En fait, la résurrection de Jésus, il est mort à la croix. Il s'est fait juger à notre place. Il a été même séparé de sa propre essence et identité. Lui qui est la vie est mort. Lui qui est le juge est condamné. Lui qui est saint et juste est méprisé. Lui qui est sans aucune faute est écrasé de nos fautes. Lui qui est le Créateur, qui est Dieu lui-même, est séparé de lui-même. Je ne sais pas si on réalise à la croix quand il a crié « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Une séparation de lui-même et de son identité. Un cauchemar absolu, l'enfer sur terre. Je ne sais pas si on réalise, mais... Il fallait une rançon. Il fallait une rançon pour qu'on puisse retrouver la relation au Père éternel. Une rançon demandée par notre rejet de Dieu. Par notre choix de marcher dans les mains de l'ennemi de nos âmes. En disant, Seigneur, je ne veux pas marcher comme toi, tu me le demandes, mais j'ai envie de découvrir autre chose. Puis la voix en Éden qui nous disait, mais trouve ta propre connaissance, tu verras. Une rançon de sang. Une rançon de vie. Parce qu'on a été séparés de la vie de Dieu. Une rançon qui est plus forte qu'une loi de vie et de mort. Il y a un truc que j'ai toujours trouvé impressionnant, c'est que Satan, il est vraiment aveugle et minime. Parce qu'il était heureux le jour de la crucifixion. Mais il n'avait rien compris, le pauvre. Lui, il était sûr, il tentait Jésus, il l'a amené jusqu'à la croix, persuadé qu'il aurait la victoire. Et cette mort, c'est cette loi au-dessus de toute loi qui lui a fermé le clapet pour dire « maintenant c'est terminé ». Et Jésus l'a fait pour nous. Mais, ouais, il y a quelque chose qui me tracasse. Et ces jours, je me demandais si j'allais vraiment parler sur Pâques. Parce que je me disais, ça sert à rien. Ça sert à rien de prêcher sur Pâques le dimanche de Pâques, parce que c'est la même routine depuis 42 ans de ma vie, bientôt 43. Et puis, de toute façon, tout le monde connaît le message de Pâques le dimanche matin de Pâques. Et puis, tout le monde vient en disant, chouette, ça va être un dimanche joyeux. Et puis, ça va être l'étape religieuse de l'année. Je me suis vraiment posé ces questions, hein. Je le dis pas maintenant pour le message, hein. Je dis, mais tout le monde le sait qu'il est ressuscité, puis c'est bon. Puis tout le monde s'en fiche. Je sais, c'est cru, hein, de dire ça comme ça. Mais je me rappelle des fois où des dimanches, ben, c'est le dimanche de Pâques, on fait les courses le jeudi, on se dépêche comme des malades, mais en fait pas pour le dimanche de Pâques. On stresse pour quoi ? On stresse pour éventuellement le repas de midi. On stresse pour se retrouver en famille. On stresse pour bien des raisons, mais on aura deux petites heures, une heure, le dimanche de Pâques, ça va être joyeux, puis ensuite c'est bon. Alors est-ce que ça vaut la peine de prêcher sur Pâques, le dimanche de Pâques ? Qu'est-ce que ça impacte dans nos vies ? Oui, j'entends, ouais, mais de toute façon, c'est vrai, on n'est pas obligé, parce que de toute façon, on est censé penser à la résurrection tout au long de nos jours, tout au long de l'année. C'est des questions que je me fais aussi. Non, mais sérieusement. Et c'est vrai que ça fait longtemps aussi que je remarque que, à part certaines communautés ou églises, le vendredi saint, il n'y a personne. On ne se retrouve pas non plus pour méditer, pour réfléchir. Alors qu'on a une occasion de la Bible, on voit des fêtes. Plusieurs fêtes ordonnées par l'Éternel. Pour se rappeler, justement pour se plonger dedans, justement pour oser prendre le temps du souvenir et de la méditation, et en même temps de se réjouir. Mais que faisons-nous ? Et comment vivons-nous ce dimanche, ou ce temps de souvenir ? Tu peux mettre ? Voilà. Je crois que c'est bien. Voilà. Ça, c'est le titre du message que je veux donner aujourd'hui. Et toi, m'aimes-tu ? Tu peux pas mettre le deuxième ? Ah non, mais c'est moi qui mets le deuxième. Si ça marche. Voilà. Tac. Vous avez vu ? Ouvrons nos Bibles dans Jean 21, les versets 15 à 19. On est après la résurrection de Jésus, et Jésus décide de se montrer aux disciples. Il est, et donc, dont Pierre, entre autres, et sont au bord du lac de Tibériade, puis Pierre et certains partent à la pêche. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Puis tout d'un coup, ils reviennent au bord, et il y a un homme qui est là, qui a un feu, qui a mis un feu, et sur le feu, il y a des poissons qui cuisent. Puis cet homme leur dit, « Jetez vos filets de l'autre côté. » Et venez à moi. Alors ils y vont. Jean, le disciple, reconnaît Jésus, puis lui dit, hey, Pierre, regarde, c'est le maître qui est là. Pierre, il saute à la flotte, il court, il nage, il arrive vers lui, et puis ensuite, ben, il faut ramener les filets. Alors il y retourne, et des filets ultra remplis, comme la deuxième pêche miraculeuse. Jean 21, 15 à 19. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, « M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » en vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Trois fois, Jésus demande à Pierre s'il l'aime. Tous les commentateurs disent que c'est en souvenir du fait que Pierre a renié Jésus trois fois. Et que Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. Et puis Pierre, ouais, ouais, tu verras. Il prend l'épée. Et le premier point que j'aimerais voir, c'est tu ne mérites rien. Pierre a renié Jésus trois fois, mais il s'est repenti fortement. Il aime Jésus, tout le monde le sait, on lit les évangiles, on voit combien Pierre aime Jésus de tout son cœur. Et Jésus voit cet amour de Pierre. Même s'il l'a renié trois fois. Et quand il a vu Pierre, il a su, reconnaissant le cœur qui se repentait de tout son être. Est-ce que Jésus a condamné Pierre ? Non. Dans le procès, en Luc 22, 61-62, Jésus se retourne, il voit Pierre qui vient de le renier. C'est écrit que Jésus se retourna et regarda Pierre. Jésus ne l'a pas condamné parce qu'il connaît le cœur de Pierre. Un cœur qui veut honorer Dieu. Un cœur qui est déchiré de ne pas avoir tenu le coup et qui n'a pas pu honorer son maître. Un cœur qui brûle de vouloir marcher avec Jésus. Pierre a tout donné. Et c'est ça que Jésus recherche. J'aimerais qu'on fasse un petit tour dans Deutéronome 7, les versets 6 à 11. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, parce que vous êtes le moindre des peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. » Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, il vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements, mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr. Il ne diffère point entre celui qui est. Il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui. Mets-les en pratique. Je crois qu'on oublie Je crois qu'on oublie trop souvent qu'on ne mérite rien. On ne mérite rien. Le texte nous montre Dieu vous a choisi. Pourquoi ? Parce qu'il vous aime. Pourquoi ? Parce qu'il s'est attaché aux promesses faites au Père. Le verset 6 souligne ça. Choisi du milieu du monde. Aujourd'hui, c'est clair, aujourd'hui Dieu est venu nous chercher, nous qui ne sommes pas son peuple direct, du milieu du monde. Le verset 7 est une clé nous montrant qu'on n'a rien de spécial, on est moindre. L'alliance première, elle est faite avec Israël, pas avec nous. Et tout d'un coup, Dieu nous ouvre les portes. À nous, on mérite encore moins que rien. Mais Dieu s'est attaché à nous. Le verset 8, Dieu nous aime et désire nous délivrer de la maison de servitude, donc du péché. Marcher avec lui, c'est nous mettre sous sa colère. Marcher, comment j'ai écrit ça ? Ne pas marcher avec lui, c'est nous mettre sous sa colère et son jugement. Jésus l'a dit, « Je suis venu non pas pour juger, mais pour sauver, mais celui qui ne marche pas avec moi est déjà sous la colère. » Donc le passage est spécifique à Israël, certes. Il a fait l'alliance avec Abraham. Si on l'étudie, mais je ne vais pas entrer là-dedans, fortement, on étudie les promesses avec Abraham sont et pour son peuple et pour les nations. Après, il les scelle avec Israël pour Isaac et Jacob. Mais il y a quelque chose pour nous déjà. Cependant, Dieu nous choisit. Il pose son regard sur toi. Il t'a désiré, il t'a dessiné, il t'a modelé, il t'a appelé. Et c'est pour te conduire dans sa gloire, afin de grandir, d'avancer avec lui, en lui, pour lui. Donc tu n'as encore rien décidé que lui, il a décidé ça pour toi. Et si nous croyons, nous devenons par grâce, plus que son peuple, nous devenons ses enfants. Et cette alliance est renouvelée en Jésus à cause de la croix. Ce deuxième point, mais comment réponds-tu à cela ? Jésus t'appelle ce matin et te pose la question. Tu peux y mettre ton prénom à la place du prénom de Pierre. On entend la question de Jésus qui dit « Yann, m'aimes-tu ? » Jésus le rappelle trois fois. « M'aimes-tu ? » « M'aimes-tu ? » Et je crois que cette notion de trois fois fait aussi mention de l'entier de Dieu. Autrement dit, tout l'être de Dieu. On a chanté, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, cette unité absolue. Ces moyens de révélation par lesquels Dieu nous conduit, c'est l'entier de Dieu qui te crie « M'aimes-tu ? » C'est ton Créateur, celui qui t'a dessiné et qui t'a conduit jusqu'ici. C'est ton Sauveur, celui qui a payé la rançon, te donnant le salut. C'est le Saint-Esprit qui désire t'amener plus loin et te faire grandir dans la foi, afin que tu entres pleinement dans ta vraie identité. M'aimes-tu ? Je comprends l'apôtre Paul, Romains 7, qui explique sa faiblesse. Il dit qu'il est le moindre de tous, le premier des pécheurs, qu'il n'arrive pas toujours à faire ce qu'il veut, mais bien au contraire, il fait ce qu'il ne veut pas. Là, ça marche, ça roule. Je suis un peu comme lui. Non, je ne me glorifie pas, je parle des faiblesses, justement. Des fois, punaise. Il y a des choses qui coulent plus vite que ce qu'on aimerait. On fait ce qu'on aimerait, on ne fait pas. On fait ce qu'on n'aimerait pas, justement, et puis on ne fait pas ce qu'on aimerait. C'est tellement difficile. Et Paul l'écrit hein, dans Romains 7. On peut lire ces passages-là pour nous le rappeler. Et ça, ça m'aide à découvrir que, malgré tout, Dieu m'aime. Mais comment est-ce que je réagis par rapport à ça ? Une chose qui est certaine, c'est que malgré ce cheminement et ces difficultés, l'apôtre Paul, il cherche quoi ? Il cherche l'excellence. Pas dans le sens d'être une élite, dans le sens d'honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et il ne s'arrête pas. C'est la seule chose qu'il veut. C'est honorer Dieu et le connaître toujours plus. Lui ressembler. Vous avez déjà entendu mon témoignage, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais s'il y a une chose qui a conduit toute ma vie, c'est « Seigneur, transforme-moi ». S'il y a une chose qui ne me lâche jamais dans mes prières, c'est « Seigneur, ne me lâche pas, parce que j'ai qu'une envie, c'est de grandir encore et encore ». Je vais vous dire une chose, heureusement que je ne suis pas devenu pasteur quand je suis sorti de l'école biblique. Parce qu'alors là, j'en aurais fait des dégâts. Et puis, mon style de vie n'était pas encore celui d'aujourd'hui. Et j'ai dû découvrir beaucoup de choses. Et j'ai fait bien des choses que je ne voulais pas. Mais toute ma vie, j'ai crié à Dieu, j'ai dit « Ne me lâche pas, je veux t'honorer, je veux te connaître plus, je te connais de toute façon pas assez. » Je veux découvrir ton message en plus. Je veux découvrir ta volonté en plus. Et ça, c'est mon cri de toute ma vie. Et ce cri, il est toujours là. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas, que je me laisse transformer sur une semaine ou bien sur 10 ans, je veux changer, je veux grandir, je veux honorer Dieu. Et je veux que ma vie l'honore. Oh, je dois vous avouer, il y a des périodes entières où je ne prie pas et je ne lis pas ma Bible. Même en tant que pasteur. La censure, elle va couper ce passage. Mais c'est la seule chose qu'il y a dans mes entrailles. C'est « Seigneur, je veux t'honorer plus et te connaître plus. » Et si tu me transformes, alléluia. Et si tu renverses mes clichés, alléluia. Et si tu renverses mes compréhensions, tant mieux. Oh, des fois, ça se coupe. Je vois mes erreurs. Je suis quelqu'un de têtu. Mais j'ai tellement envie. Puis Dieu y gagne. Et comme j'ai envie, j'accepte. Malgré les difficultés. Oh, puis il me prend au mot. Jusqu'au moment où ça passe. Béni soit son nom. Alors régulièrement, je repense à la croix. Et là, je médite là-dessus. Seigneur, j'ai envie de grandir. Alors, je regarde à la croix. Oh, là, tu me montres que ça ne va pas. Aïe. Merci parce que tu es ressuscité. Donc, tu me conduis, tu me permets de changer. Merci parce que si j'y arrive pas, si je trouve trop élevé, il y a une chose que je sais, c'est que ta grâce me tire avec. Et donc, je sais que la victoire, elle est au bout. Donc, j'avance, même si je m'écroule. Mais je veux être malléable entre les mains de Dieu. Ces temps, pendant mon temps d'arrêt, je suis très travaillé par Romains 8. Vous pouvez lire Romains 8. Mais c'est une bombe pour moi à l'heure actuelle. Ça me secoue dans tous les sens. Il y a des trucs que je trouve merveilleux, il y a des trucs cool, là, là, c'est dur. Puis j'ai envie de le vivre, pas juste dire c'est un beau passage. Mais je vous encourage à le lire. C'est juste extraordinaire. Vous savez, quand j'ai mis avant le passage de Jean 21, où Jésus parle et dit « Pierre, m'aimes-tu jusqu'au bout ?» Est-ce que moi, je suis plus grand que le Maître ? Est-ce que nous sommes plus grands que Jésus ? Et Jésus parle à Pierre, puis lui dit une chose, il lui dit « Quand tu seras plus grand, ça ne va pas se passer comme t'aimerais. » Et c'est pour ça que j'ai lu jusque-là. Parce que l'appel de Jésus est total. Ça ne veut pas dire qu'on va tous passer par là. Mais par contre, ça veut clairement dire qu'on peut grandir et vivre des circonstances différentes et avancer avec Dieu. Que Dieu ne s'arrête pas au fait que tu es sauvé. Il veut te faire grandir. Alors, comment réponds-tu à ça ? Est-ce que toi aussi tu désires honorer Dieu, quelle que soit ta route ? Des fois, heureusement qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce que toi aussi tu désires marcher avec lui ? Mais pas seulement avec lui, mais en lui, et pas seulement en lui, mais pour lui. Est-ce que toi aussi, tu veux faire sa volonté ? Alors, je vais mettre deux petits attentions. Aujourd'hui, sur notre planète, il y a bien une chose que je remarque et que je suis surpris souvent dans les discussions que j'ai. Peut-être ça va vous surprendre. Mais on dit souvent « le Christ ». On parle de le Christ. Le Christ, le Christ, le Christ, le Christ. Ça m'arrache les cheveux. Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est pas juste d'appeler le Christ. Parce que Christ, vous savez ce que ça veut dire ? C'est pas son nom de famille, hein ? Au cas où il y en a qui ne le savaient pas. Christ, ça veut dire le Messie. Ça veut dire celui qui est appelé. Celui qui a reçu le mandat. Autrement dit, Christ, c'est un attribut. Dans la notion du Messie, il y a quand même cette notion de quelqu'un qui est extrêmement attendu. Mais c'est un attribut. Donc, j'ai pas envie de suivre un attribut. J'ai envie de suivre celui qui porte l'attribut. D'accord ? Et c'est Jésus. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus, le Messie, est Seigneur, à la droite de Dieu, le Père. Jésus, en plus, ça porte une identité. Jésus, ça vient de l'hébreu, c'est Yeshua. Et ça veut simplement signifier Dieu sauve. En hébreu, quand on parle, on peut dire, quand on parle du salut, de manière générale, dans une discussion, on dit Yeshua, sans prononcer le nom de Jésus, mais c'est le mot, ça sauve. Il y a la délivrance. Quand on parle des délivrances, on dit Yeshua, sans parler du prénom. Dans l'identité, quelqu'un qui s'appelle divine, il y a le sens. Quelqu'un qui s'appelle bonté, il y a le sens direct, on l'entend. En hébreu, Yeshua, tu comprends tout de suite ce que ça veut dire. Jésus vient de là. Tiré du grec, Jésus, enfin voilà, j'entre pas dans le détail. Tiré de là. Christ, c'est l'envoyé. Au nom de l'envoyé, sois guéri. L'envoyé, lequel ? Le nom de Jésus, il n'y a pas plus grand que celui qui peut sauver, et non seulement qu'il le peut, mais qu'il le fait. Le nom de Jésus. Et je vois dans les difficultés, dans les discussions, des parfois, le nom de Jésus ne sort pas. C'est le Christ tout le temps. C'est comme s'il y avait un bug. Ou alors on dit Dieu, comme ça on est général dans les discussions, peut-être avec ceux qui sont dehors de l'Église. Mais le nom de Jésus, moi je l'ai remarqué moi-même, je préférais le dire en anglais, c'était plus facile, c'était pas ma langue, il y a comme une barrière, donc là j'arrivais à le dire. En allemand j'arrivais à le dire, quand j'étais à l'hôpital puis que je causais avec ceux dans ma chambre, ça m'était facile de parler de Jésus, mais en français des fois c'est... Pourquoi ? Parce qu'il y a la puissance, nous l'avons chanté, dans le nom de Jésus. Alors je préfère parler clairement de Jésus plus que du Christ. Et là, on comprend Romains 19 qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc on comprend bien que c'est difficile de proclamer ce nom, c'est pourquoi il ose dire « Si tu le confesses de ta bouche, le nom de Jésus. » Alors il y en a qui arrivent, hein, dans les médias, ils parleront de Pâques, et puis vous entendrez, puis direz « Alors pour cela, alors c'est la résurrection de Jésus. » Voilà. Nous, franchement et honnêtement, on en est où ? Où en suis-je à ce sujet ? Le attention d'eux, aujourd'hui, on cherche trop souvent à trouver dans la Bible ce qui nous arrange, afin de permettre de vivre certaines choses. Parfois, on se base sur des versets afin de valider nos actions, sachant qu'un autre verset peut dire exactement l'inverse. On confond les textes, on les arrange, c'est pas simple, certes, mais trop souvent, et là, je parle de ma propre expérience, entre autres, on cherche ce qui nous arrange et non pas ce que Dieu désire nous dire dans nos choix. Et on choisit la meilleure option. Est-ce que je vais dans la Bible pour regarder ce que j'ai envie de recevoir ou est-ce que je vais dans la Bible pour dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ce point-là » et qu'on se laisse conduire dans ce point-là. Je vais vous donner mon témoignage à ce sujet-là. J'ai un tatouage sur mon bras. C'est le logo d'un groupe de musique, d'une musique qui fait du bruit, hein, qui gueule et puis ça va, des grosses guitares. Et ce groupe s'appelle les Crucifiés, en anglais, Crucified. J'ai mal prononcé, mais c'est pas grave. Et ce logo, c'est la croix faite avec les trois clous entourés de la couronne d'épines. C'est beau ! Il est saint, ce logo. J'avais raison de le faire comme tatou. En fait, je voulais un tatouage. Ça faisait des années que j'y réfléchissais. Et puis, en même temps, je voulais cette reconnaissance dans ce monde musical. Il y a déjà une balance là. Hein. Après, l'autre chose, c'est vrai que dans mon cœur, j'avais qu'une envie. Je ne mettrai pas n'importe quoi sur mon bras, sur mon corps. Je mettrai quelque chose qui a un sens. Et je veux que ce sens soit lié à ma foi. Alors vous allez dire, ah, c'est bien, c'est bien. Alors je continue. J'avais envie que le jour où je ne sais plus où j'en suis avec Dieu, celui-là, il m'empêche de l'oublier. J'avais envie que les moments où je l'oublie, parce que je vais à la plage, puis que je suis avec mes potes, et j'oublie que j'ai un truc sur le bras, puis que les gens, tout d'un coup, ils l'aient dans la figure, comme ça, ils le voient, ça donne un témoignage que je peux pas enlever comme un t-shirt que je peux cacher. J'avais envie de quelque chose qui proclame ma foi plus loin. Alors j'ai cherché, et puis je tombe sur un verset qui dit « Tu ne te feras pas de tatouage. » C'est dans le Lévitique. Tu ne te feras pas de tatouage. Tu ne te feras pas de marque sur la peau, tout ça. Bien, c'est bien. Bon, ben pendant tout ce temps-là, j'ai pas fait. Par contre, j'allais tous les jours chez le tatoueur. Puis je regardais comment il faisait. Et puis je criais. Puis après, je tombe sur le verset. Ah, qu'il était beau ce verset. permis. Mais tout ne m'est pas utile. Après, il y a le verset suivant qui me conforte, c'est ce qui est le fruit d'une conviction, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Je veux parler de toi, Seigneur. Content. Et pourtant, à l'intérieur, un bug, un pins qui me dérange. Puis un jour, j'ai un ami, mais là, je vous dirai pas quel verset c'est, qui vient vers moi et qui me fait « Hey Yann, toi qui aimes le tatouage, regarde ce verset. » Prof, dans la semaine, j'étais chez le tatoueur. Et puis un jour, je me suis retrouvé à l'Armée du Salut pour une journée nationale de l'Armée du Salut, puis c'était des ateliers pour les jeunes. J'étais avec les compagnons de Daniel, puis c'est moi qui ai donné le message ce jour-là. Ma femme m'accompagnait. Et puis il y a un jeune qui, tout d'un coup, à la fin, dans les questions-réponses, il me pose la question « Alors, le tatou, t'en penses quoi ?» Et j'ai prêché contre le tatou. J'étais en train de lui montrer ce que la Bible disait. Je m'écoutais en disant « Attends, il y a un bug là. Yann, c'est toi qui dis ça ?» Bon. On est rentré à la maison, ma femme, elle me regarde, puis elle me dit « T'as entendu ce que t'as prêché ?» Je la regarde, tu lui dis « T'as entendu la même chose ?» Et puis j'ai crié au secours, j'ai dit « Mais Seigneur, pourquoi j'ai prêché la contre alors que j'en ai un et que je le revendique ?» Et puis je tombe sur un verset de Jésus, sur une parole de Jésus qui dit « C'est à cause de la dureté de vos cœurs qu'il vous a été permis. » Résultat, j'ai dû me repentir fortement. Et puis je ne vais pas entrer sur tout un enseignement que je peux faire très clair sur le monde du tatouage, mais Jésus m'a montré où j'en étais. Il m'a confondu. Mais j'ai cherché mes intérêts. Avec toute la meilleure volonté du monde. Évangéliser même malgré moi. C'est bien, hein ? Alors comment est-ce que tu réponds à ce que Dieu t'offre et à ce que Dieu t'appelle ? Marcher avec lui ? Que désires-tu ? C'est le dernier point. Est-ce que je cherche les miracles ? Est-ce que je cherche les victoires, les signes et les prodiges ? Oui, c'est juste. Et c'est bon. Mais si en même temps je fuis la prière, si en même temps je ne veux pas obéir à la parole de Dieu, si en même temps je n'aime pas mon prochain, si en même temps je fuis la relation à Dieu, si en même temps je ne mets pas Dieu à la première place dans ma vie, je peux prier tout ce que je veux pour des miracles, des signes et des prodiges. Où est mon cœur, ce cœur que Dieu voit ? Pierre l'a renié 3 fois, mais Jésus a vu son cœur. Alors quel est mon cœur ? Comment est-ce que... Qu'est-ce que je désire maintenant ? Est-ce que je veux m'attacher à sa parole ? Parce que si je rejette ces choses, c'est comme si je rejette la croix. Je veux ce qui m'intéresse. Seigneur, je désire les puissances, les miracles, les signes et les prodiges. J'aimerais bien te voir un petit peu avec moi de temps en temps. Seigneur, c'est quand que t'envoies les signes et les miracles et les prodiges ? Je veux bien te les donner, il n'y a pas de souci. Tu veux pas venir passer un peu de temps avec moi ? Là, je vous parle de mon vécu. Hein. En Jésus, ton identité se dessine, ton appel se dessine, ta vie change. L'espoir et la vie deviennent motivants, malgré les circonstances et les situations de vie. Dieu est fidèle, ne l'oublions pas, et il a un but pour nous tous. Vous savez ce but, ce que c'est ? C'est un peu fou, mais Jésus l'a dit, et on le verra pour la Sainte Cène, celui de boire le fruit de la vigne. C'est un des buts extraordinaires de Dieu. C'est fou quand on y pense. Ça veut dire que Dieu, il voit déjà dans l'après. Pourquoi ? Parce qu'il a dit « J'en boirai plus jusqu'à ce que le royaume de mon Père soit établi. » Alors ça veut dire que c'est l'ardent désir de Dieu, et en plus, il veut le faire avec qui ? Avec nous. Le but de Dieu, vous trouvez ça, hein ? Matthieu 26, Luc 22, Marc 14, je ne vous dis pas des choses comme ça à interpréter, c'est ce que le texte dit. Jusqu'à ce qu'ils le boivent avec nous dans le royaume, quand le royaume de Dieu sera venu. Son but sera de régner avec nous sur terre. Apocalypse 5, 6 à 10 le dit. Nous sommes dans un temps inachevé. Tout est accompli, mais tout est dans le accompli, pas encore dans la finitude. Je ne sais pas si ça existe comme mot. D'accord ? On est dans cette étape du tout est accompli pour qu'on puisse entrer pleinement dans tout ce que Dieu nous a promis et le vivre. Et puis ensuite, quand ce sera le temps, il y aura ce repas avec nous, du moins avec ceux qui le suivent. Le repas de noces dont parle la Bible. J'ai envie d'être cette fiancée, l'épouse du Christ, sans tache ni ride, faire partie de ce qu'est censé être l'Église. Apocalypse 19, 7 à 9, on parle. J'ai envie de me préparer, goûter à ce repas qui scellera l'entier de l'œuvre de Dieu, pour nous, nous préparant à siéger pleinement avec lui, de me réjouir avec lui, d'enfin pouvoir boire ce repas et d'entrer dans le plein accomplissement de tout ce qui a été prévu. Paul, il le dit, ici on goûte à ces choses, comme au travers d'un miroir. On n'est pas encore dans la plénitude. J'ai envie de faire partie de l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens 4, 17, 1 Corinthiens 15, 52, si vous voulez, des passages à ce sujet. De faire cette reprise de l'épouse. J'ai envie de le vivre. J'ai envie de faire partie de celui qui sera pris, non pas de celui qui sera laissé. J'ai envie de le vivre. Dans l'Église, c'est aussi écrit qu'il y en a un qui sera pris et l'autre laissé. Regardez tout ce qu'enseigne Matthieu 24. Je rappelle ce que Jésus dit en Matthieu 7. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Qu'est-ce que je désire ? Honorer Dieu de tout mon cœur, même si peut-être je me plante ? Ou est-ce que je désire vivre ma gloriole personnelle, mon accomplissement individuel ? Au lieu de rechercher Dieu toujours plus et de se laisser toucher, transformer, grandir par lui. Cette invitation énorme pour être avec lui dans sa gloire. Ça transforme la vie, dans le concret déjà. Ma femme peut le dire, j'en suis un témoin, même si je suis encore bien têtu. C'est vrai ? Elle est obligée de dire oui maintenant. Seigneur, je désire que ma vie soit un parfum pour toi. Je désire me laisser changer, et comme le dit 2 Corinthiens 3, 18, transformer de gloire en gloire, et puis de faire de Jésus ma priorité, toujours plus, encore plus, et toi. Conclusion, j'espère que tu entends cet appel ce matin, un appel d'un cœur déchiré pour toi, un cœur qui brûle d'amour pour toi, un cœur que celui qui a la vie a goûté à la mort. Un cœur que celui qui est saint s'est laissé écraser et apporter ton péché. Il a un cœur que celui qui pourrait te juger parce que tu ne marches pas avec Dieu t'accueille dans ses bras d'amour en te disant « J'ai qu'une envie, c'est que tu viennes avec moi. Je veux pas que tu sois jugé. Je le veux pas. J'ai qu'une envie, c'est que tu viennes régner avec moi. J'ai qu'une envie, c'est que tu participes à ce repas de noces. J'ai qu'une envie, c'est que dans cette vie, tu puisses me connaître. » Donc on a vu le point 1, on ne mérite rien, c'est tout Dieu qui nous offre. Dieu nous donne tout et nous fait tout découvrir. On a vu le point 2, recommandant de voir de quelle sera notre réponse par rapport à cela. Ce n'est pas jouer avec Dieu, Dieu n'est pas une baguette magique, il n'est pas un arrangement pour ma vie. Parce que si ça c'est ma vie, alors je rejette la croix. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Éden. Ou bien est-ce que ma réponse sera ce désir ardent de grandir, de nous attacher, comme le petit enfant qui crève d'envie de marcher, il se lève mais il retombe. Alors il se relève encore mais il retombe. Mais qu'est-ce qu'il a envie de marcher ? Il y arrive. Le juste tombe, mais il se relève. C'est qui tombe ? Mais il se relève. Et Dieu regarde à ça. Alors on avance, même si les temps sont durs. Si nous décidons de le suivre, engageons-nous. Si j'ai dit « Seigneur, je veux marcher avec toi, je te donne ma vie », ça veut dire « je te donne ma vie ». Ça ne veut pas dire « je crois juste en toi », parce que Satan aussi croit en Dieu. Et il croit même en Jésus. Et les démons encore plus que nous, certainement. Et ils savent, ils connaissent tout ça. Et puis eux qui ont prophétisé, qui ont utilisé malgré tout le nom puissant de Dieu pour chasser les démons, le nom de Jésus, il leur dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité », autrement dit, qui ne voulez pas changer. Vous qui restez dans vos fautes et vos erreurs, et en plus vous les savez, mais vous les cachez, c'est pas mon nom qui vous sauvera si vous ne changez pas. On a vu ce troisième point, nous demandons ce que l'on désire. Si on sait ce qu'on veut, on va marcher dedans. Et Jésus nous prend par la main. Dernier passage pour terminer, Matthieu 6, 19, 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne se perdent ni ne se dérobent. Car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. » Jésus brûle d'envie de vivre ces choses avec toi. Il a tout fait pour t'y motiver et il va le faire tant que tu respires. Il veut t'y encourager, t'accompagner jusqu'au plus profond de ses entrailles. Quand toi, tu es saisi dans tes entrailles pour quelque chose, tu sais ce que ça veut dire. Alors imagine que dans ses entrailles, Jésus fait tout pour te relever, te conduire plus loin tellement il t'aime. Alors Jésus te dit, « M'aimes-tu ?» À Pierre, il pose encore la question plus loin, « M'aimes-tu plus que ceci ?» Oui, toi, m'aimes-tu ? Amen.